forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrice, auditeur, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 11 mars et Jean-Louis, au micro de Radio Libre en Périgord, vous présente cette chronique du groupe Fred Zeller. Alors je voudrais tout d'abord revenir très rapidement sur la manifestation ou les manifestations qui se sont déroulées samedi matin à Périgueux, à Sarlat et à Bergerac. Manifestation pour exiger le cessez-le-feu immédiat et permanent, l'arrêt des bombardements, pour exiger que des mesures soient prises et notamment l'arrêt des livraisons d'armes à Israël. L'opération génocidaire est maintenant clairement démontrée. Les témoignages arrivent par dizaines et par dizaines montrant qu'il y a là une entreprise génocidaire absolument incontestable. Il faut que ça s'arrête tout de suite et nous continuerons donc à participer à l'ensemble de ces mobilisations pour exiger ce cessez-le-feu immédiat. Ce n'est pas le seul objectif que nous avons tout de suite, puisqu'il y a toute une série d'autres sujets qui nous préoccupent, et notamment la loi Darmanin qui a donc été votée, qui va s'appliquer dorénavant, et qui est également l'objet de plusieurs mobilisations et initiatives, et notamment une initiative qui va se dérouler le 23 mars, et pour laquelle le groupe Fred Zeller de la Libre Pensée a pris l'initiative d'inviter les organisations et associations qui avait déjà participé aux précédentes initiatives des 18 décembre et 3 février, pour définir ensemble donc ce que nous ferons le 23 mars. Et cette réunion se tiendra le 15 mars prochain. Donc, lors de notre prochaine chronique, je serai en mesure de vous donner toutes les informations sur les initiatives qui seront prises pour le 23 mars. Avec donc notamment la marche des solidarités qui est à l'initiative de cette initiative, avec 160 associations et organisations au plan national qui s'y sont joints. Voilà. Alors, pour cette émission, je vais revenir sur le conflit entre Israël et Gaza. Et à travers un entretien qui a été publié dans Mediapart, un entretien avec Stéphane Audouin-Rouzeau. Alors, Stéphane Audouin-Rouzeau n'est pas un militant pacifiste, c'est l'historien, un historien du fait militaire et qui fait un constat sur le fait que la France n'est ni prête ni matériellement ni militairement au moment guerrier contemporain. Donc, il en tire des prolongements qui ne sont pas forcément ceux que l'on partage. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment ce spécialiste des questions militaires apporte des éléments extrêmement précis qui questionnent et qui, moi, c'est effectivement un avis personnel et je pense que je ne suis pas le seul à dire qu'il aurait fallu y réfléchir un petit peu avant et qu'on ne peut pas continuer comme ça à une spirale qui rappelle malheureusement d'autres moments de notre histoire, et notamment ceux qui ont précédé la guerre de 14, avec une spirale qui, à un moment donné, se déchaîne, et quelques semaines, quelques mois plus tard, on se retrouve dans des éléments totalement incontrôlables, et c'est la guerre totale, et on voit à quoi ça a amené en 1914-1918. Donc, pour nous, libres penseurs, nous sommes résolument du côté de la paix et de la recherche obstinée de la paix. C'est plus compliqué que de prôner la guerre. Alors voilà ce que dit dans cet entretien à Mediapart Stéphane Audouin-Rouzeau. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, un spécialiste de la Première Guerre mondiale et président du Centre international de recherche de l'historial de la Grande Guerre à Péronne, dans la Somme. Et il a publié l'an dernier, aux belles lettres, « La part d'ombre, le risque oublié de la guerre ». Alors, Mediapart avait reçu pour son livre « Une initiation au Rwanda 1994-2016 », publié aux éditions du Seuil, et Mediapart s'était entretenu avec lui pendant le premier confinement pour analyser les parallèles possibles et impossibles entre les temps de guerre et ce moment d'épidémie, donc pendant le confinement, et puis un an après, sur l'ampleur du choc moral et politique que vivaient alors nos sociétés. Et Mediapart lui a demandé d'analyser, depuis son regard d'historien, le déclenchement de la guerre en Ukraine, avant d'en dresser un premier bilan une année plus tard. Et c'est la poursuite de cette réflexion entre passé et présent que Mediapart propose à donc Stéphane Audouin-Rousseau, alors que l'Ukraine admet être en mauvaise position et que le président Macron considère la possibilité d'y envoyer des troupes occidentales, c'est le rappel des déclarations du président de la République il y a quelques jours, et que s'ajoute à ce moment guerrier à l'est de l'Europe l'anéantissement sous les bombes d'une large partie de Gaza. Alors, Mediapart pose la question. Entre Gaza et l'Ukraine, nous avons le sentiment de vivre, comme rarement, dans un monde en guerre, pesant même sur celles et ceux qui n'y participent pas directement. Est-ce une illusion historique ou un sentiment que vous partagez ? Stéphane Audouin-Rousseau répond. C'est un sentiment que je partage tout à fait et qui se manifeste par une forme d'accablement que nous avons ressenti à la manière dont les gens se sont présentés leurs vœux pour la nouvelle année, avec une forme de réserve que je n'avais jamais observée auparavant. Ce rituel banal s'est vu subverti par la situation de guerre englobante, en quelque sorte, et je trouve que c'est assez significatif. Cette situation, me semble-t-il, poursuit Stéphane Audouin-Rousseau, pèse sur chacun d'entre nous, d'autant plus que ces deux conflits percutent et pénètrent, même si c'est de façon différente dans l'un et l'autre cas, le champ politique, les familles, les amitiés, les milieux professionnels. Ce sont des guerres qui diriment et fragmentent le social parce qu'elles nous affectent toutes et tous au sens propre du terme. Seconde question, n'est-ce pas davantage vrai pour ce qui se passe à Gaza qu'en Ukraine ? Sans doute, répond donc Stéphane Audouin-Rousseau. Mais dans le cas de l'Ukraine, les affects surgiraient de façon plus aiguë si, comme on peut le craindre, l'évolution de la situation montrait que l'Ukraine était en train de perdre la guerre en impliquant de lourdes décisions à prendre sur le plan international. Tant que le front reste largement gelé, on peut tenir le sujet plus à distance. Mais il en irait probablement différemment si la question de notre aide et de notre présence militaire dans cette guerre était posée à nouveau frais du fait d'un basculement stratégique en défaveur de l'Ukraine. Dans le cadre d'une guerre interétatique, il est vraiment rare qu'un des deux camps reconnaisse être dans un contexte préoccupant. Or, c'est le cas de l'Ukraine. Mediapart poursuit. Comment avez-vous lu l'hypothèse faite par le président Macron d'envoyer des troupes occidentales sur le terrain ukrainien ? J'ai été très surpris, répond-il, comme beaucoup. Et je l'ai interprété comme un signe de la gravité de la situation. Cette déclaration n'était pas une imprudence de langage, mais davantage le signe que nous sommes dans une situation très inquiétante. Dans le cadre d'une guerre interétatique, il est vraiment rare qu'un des deux camps donc reconnaisse être dans un contexte préoccupant. Or, c'est actuellement le cas de l'Ukraine. Comme historien de la Grande Guerre, qui ne peut que constater la proximité morphologique de la guerre actuelle avec celle du début du XXe siècle, je ne peux m'empêcher de penser que l'Ukraine est en train de vivre sa crise de 1917. L'offensive militaire du printemps et de l'été a échoué, l'état-major a été changé, le déficit d'armement est criant et les premiers doutes ont émergé au sein de la société ukrainienne sur la nécessité, la durée et l'équité de la mobilisation militaire. Mediapart reprend une autre question. Mais après 1917, il y a eu 1918. Pourquoi alors craindre ainsi une défaite presque inévitable de l'Ukraine ? Rien n'est inévitable à la guerre et il serait très imprudent de faire des prévisions définitives. Cela étant dit, il faut bien remarquer que les Ukrainiens ne possèdent pas les éléments stratégiques qui ont permis à la France et à ses alliés de renverser la situation à l'été 1918. La supériorité démographique permise par l'arrivée des Américains en 1917 est aujourd'hui du côté des Russes. L'économie de guerre, qui fonctionnait alors bien mieux chez les Alliés que chez les Allemands, fonctionne là aussi beaucoup plus efficacement du côté russe. Et de plus en plus, semble-t-il, d'autant que nos sanctions ont échoué. Surtout, le couple char-avion, que les Allemands ne possédaient pas en 1918, mais que les Alliés maîtrisaient, avait alors permis un renversement stratégique. Aujourd'hui, on ne voit aucune carte dans les mains de l'Ukraine lui permettant de renverser la situation. Les Russes n'auront peut-être pas les moyens de marcher sur Kiev, mais qui peut dire qu'ils ne seront pas en mesure d'imposer un armistice, à leur avantage ? Personnellement, je ne peux m'empêcher de juger la situation désespérante. Nouvelle question de Mediapart. Jusqu'à quel point la morphologie de la Grande Guerre et celle de la guerre en Ukraine sont-elles comparables ? On sait que nous sommes, dans les deux cas, dans une guerre de position. Mais se contenter de dire cela ne suffit pas. Ce qui rapproche la morphologie des deux conflits, c'est la supériorité écrasante de la défensive sur l'offensive. Cela explique pourquoi les Russes s'en sont si bien sortis au printemps et à l'été dernier face à l'offensive ukrainienne. Pendant la guerre de 1914-1918, l'outil défensif principal, d'une efficacité redoutable, était le barbelé. Ce sont aujourd'hui les mines, mais l'efficacité de ces deux armes passives est un peu comparable. Dans les deux cas, seuls de petits groupes de fantassins peuvent éventuellement avancer, localement, mais ce n'est pas ainsi que l'on brise un front. Il est également frappant de constater qu'en dernière instance, l'arme de domination du champ de bataille soit le canon. En dépit du fait que nous soyons face à une guerre numérique moderne, c'est jusqu'à présent l'infanterie appuyée par l'artillerie qui détermine l'issue des affrontements. Nous avons bâti une armée certes remarquable de professionnalisme, mais inadaptée à la situation géostratégique nouvelle. Autrement dit, c'est la quantité de pièces d'artillerie et de munitions qui est fondamentale. Les franco-britanniques durent attendre la deuxième moitié de l'année 1916 pour compenser leur retard initial sur l'Allemagne en la matière. Aujourd'hui, l'écart entre Ukrainiens et Russes en ce domaine, estimé parfois de 1 à 10, permet difficilement d'imaginer comment l'Ukraine pourrait s'en sortir. Sommes-nous en France psychologiquement et matériellement prêts à combattre s'il le fallait ? Demande Mediapart. C'est la question que pose Jean-Dominique Mercher dans le livre qu'il vient de publier. Je ne pourrais pas répondre pour la dimension psychologique, car comment savoir ? Qui eût pu imaginer en février 2022 l'incroyable cohésion de la société ukrainienne face à l'invasion ? En revanche, pour la dimension matérielle et militaire, la réponse est non. Comme historien du fait militaire, je suis frappé de constater que nous avons bâti une armée, certes remarquable de professionnalisme, mais inadaptée à la situation géostratégique nouvelle. La France est la première armée de l'OTAN en Europe. La défense constitue le deuxième poste budgétaire de l'État. Mais on sait à présent que s'il fallait engager des troupes contre la Russie, nous ne pourrions mettre en ligne qu'un corps d'armée de 25 000 hommes, après des efforts de mise en place de plusieurs mois, et à condition d'avoir le renfort d'une division étrangère. Ces forces pourraient tenir un front de 80 km, c'est tout. Nous avons une armée dite échantillonnaire, au sens où nous avons tout ce qui est nécessaire à une armée moderne, mais en petite, voire très petite quantité. Impossible dans ces conditions d'assumer durablement un combat de haute intensité. À cela s'ajoute le fait qu'une production de masse n'est pas du tout à la portée de l'industrie de défense française, comme on le constate depuis 2 ans. Curieusement, tout cela n'inquiète pas l'opinion publique, on est aux limites d'un déni de réalité. Mediapart poursuit. La guerre en Ukraine dure depuis maintenant 2 ans. Est-ce vraiment du déni de penser qu'elle ne débordera pas ? Absolument. La faute originelle de n'avoir pas cru à la guerre avant le 24 février 2022 pèse tout son poids. C'est là l'emprise de la force des commencements, pour reprendre une expression de l'historien René Raymond. Avec toutes les conséquences que cette erreur initiale peut avoir, ce déni s'est exprimé une fois de plus au printemps dernier lorsque l'on s'en est pris à espérer follement que les 200 chars lourds que l'on avait fini par livrer péniblement à l'Ukraine lui permettraient de prendre l'avantage. Je n'y ai jamais cru, au sens où l'idée que des chars puissent avancer sans couverture aérienne au milieu de champs de mines face à une artillerie puissante, comme l'a toujours été l'artillerie russe, était tout simplement absurde. Il faudrait se demander, et si les lignes ukrainiennes sont enfoncées au printemps prochain, que se passera-t-il ? À cet égard, il demeure étrange que les avertissements lancés avant l'offensive de printemps soient passés sous le radar. Le général Desport disait qu'il faudrait 30 à 40 fois les moyens dont disposait alors l'Ukraine pour briser le front russe. Dire aujourd'hui que les troupes ukrainiennes sont à la peine, sous pression, etc., c'est se payer d'euphémisation. Il faudrait se demander, et si les lignes ukrainiennes donc, sont enfoncées au printemps prochain, que se passera-t-il ? Que les Ukrainiens ne se posent pas cette question et que l'on ne puisse pas se la poser devant eux, j'ai pu le constater à plusieurs reprises, c'est bien compréhensible. Mais qu'on ne se la pose pas en France relève encore une fois du déni. Que pensez-vous de l'affirmation du président Zelensky selon laquelle la guerre aurait causé la mort de 31 000 soldats ukrainiens depuis le début du conflit ? Depuis le 24 février, nous avons quelques chiffres russes, ukrainiens ou issus des services de renseignement occidentaux et ils ne sont pas cohérents entre eux, ce qui nous laisse analytiquement très démunis. La perte en hommes est en effet le critère essentiel pour saisir la dimension d'une guerre. À la fin de l'année 1914, la France, qui compte alors une population comparable à celle de l'Ukraine contemporaine, a enregistré 400 000 tués. Si le chiffre donné par Zelensky est exact, on mesure la disproportion avec la Grande Guerre. Un deuxième élément nous manque pour espérer faire des sciences sociales sur le fait guerrier actuel, le ratio entre les tués et les blessés. Il semblerait qu'on se situe côté russe comme côté ukrainien dans une proportion d'un mort pour 3 ou 4 blessés. Ce sont des chiffres comparables à la Première Guerre mondiale. Cela signifie que la chaîne de soins tend à ressembler à ce qu'elle était il y a un siècle, avec des blessés évacués d'abord sur un brancard, puis par la route, avant d'atteindre un hôpital. Un soldat blessé, s'il n'est pas tué sur le coup, a toutes les chances de survivre s'il se trouve dans un bloc opératoire moins d'1 heure et mieux 20 minutes après la blessure. Et de toute évidence, ce n'est pas le cas dans ce conflit. Cela rappelle que les blessés de cette guerre ne bénéficient pas, comme ce fut le cas à partir de la guerre de Corée, puis au Vietnam, de l'évacuation par hélicoptère, une pratique qui a révolutionné la prise en charge des blessures de guerre, mais qui suppose toute une logistique avec des hélicoptères de combat pour couvrir les hélicoptères sanitaires et des blocs opératoires préparés et immédiatement utilisables. On a de ce fait l'impression extraordinaire pour un historien d'une démodernisation de la guerre qui coïncide bien avec le retour des tranchées, la supériorité de la défensive, la dimension décisive de la masse d'hommes et d'obus engagés. Un autre aspect assez vertigineux est le nombre très élevé d'amputations qui nous rappelle que ce n'est que dans l'après-coup que l'on pourra véritablement mesurer l'ampleur de la catastrophe et ses effets pour l'avenir des sociétés actuellement en guerre. Et Mediapart demande « Concrètement, ce qui se passe à Gaza et ce qui se déroule en Ukraine ne se ressemblent pas du tout. Est-il tout de même légitime de parler de guerre aujourd'hui à Gaza ?» Ces fois, Stéphane Laudouin-Rousseau répond « Je serais tenté d'éviter le terme. On le sait, chaque mot posé à la situation à Gaza est susceptible d'être rejeté et son auteur stigmatisé. Je resterai donc très prudent. En l'occurrence, je serais tenté d'adapter le fameux concept d'état de violence du philosophe Frédéric Gros, mais je l'utiliserai au pluriel. Il me semble en effet pertinent d'évoquer un état de violence multiforme qui se répond, s'ajoute, s'additionne. Il y a évidemment de la violence de combat qui déborde sur les civils. Mais il y a la violence liée à la pénurie de ravitaillement en eau et en produits alimentaires, c'est-à-dire en besoins essentiels. Il y a également une violence sanitaire par la mise hors jeu des services hospitaliers et l'interruption de l'approvisionnement en médicaments. Mais il existe aussi des violences symboliques. Je pense en particulier à la destruction des cimetières, qui n'a aucune nécessité militaire, mais constitue une atteinte à la filiation, de même que certaines destructions de lieux culturels. À quoi il faut ajouter des violences d'exaction de l'armée israélienne à l'encontre de la population gazaoui apparue depuis peu. En ce sens, le terme de guerre n'épuise sans doute pas le sens de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. On y observe une palette de violences qui demeurent distinctes dans leur signification et qui ne peuvent être réduites à de simples violences de combat. Vous avez écrit que le 7 octobre relevait d'une violence éliminationniste. Qu'entendez-vous par là ? Après le 7 octobre, Larche m'a demandé à chaud un article sur la notion de barbarie que j'ai récusé dans la mesure où elle ne me paraissait pas opérante du point de vue des sciences sociales. À mes yeux, ce que le Hamas a mis en œuvre est une violence éliminationniste radicale au sens où, sur les portions de territoire israélien qui se sont retrouvées entre ses mains pendant quelques heures, ses troupes ont procédé à une élimination totale de la population, hommes, femmes, enfants. À cela s'est ajouté le déploiement d'un théâtre de cruauté, marqué notamment par la vivisection des corps ou leur destruction par le feu. En rendant les corps non reconnaissables et biologiquement impossibles, on met en scène une atteinte à la filiation, ce qui définit précisément la cruauté. C'est également le cas avec les violences sexuelles. On sait que ce programme de cruauté radicale a profondément traumatisé les Israéliens en leur tenant un discours dont la signification profonde a été parfaitement perçue comme telle. N'est-ce pas une violence éliminationniste comparable à celle à laquelle nous assistons en ce moment à Gaza ? Il me semble que la logique est autre. Une des tentations que l'on peut voir à l'œuvre chez une partie des dirigeants israéliens, c'est ce que l'on appelle l'épuration ethnique. C'est atroce, mais ce n'est pas la même chose. La phénoménologie des violences n'est pas la même, mais sur ce point précis, le débat est terriblement envenimé. La comparaison entre ce qui se passe depuis 5 mois à Gaza et les bombardements des alliés sur Dresde ou Hambourg pendant la Seconde Guerre mondiale vous paraît-elle pertinente ? Demande Mediapart. Comparons ce qui est comparable. À Dresde ou à Hambourg, il ne s'agit pas d'atteindre le commandement du Reich. Il s'agit de terroriser la population. C'est un sujet sur lequel on s'est déjà exprimé dans nos chroniques. Et c'est très intéressant que cet historien le rappelle. Et l'on sait maintenant que cela a été contre-productif dans la mesure où ces bombardements massifs, donc de Dresde et Hambourg, que ces bombardements massifs ont eu plutôt pour effet de souder cette dernière autour de ceux qui les gouvernaient plutôt que de les en détacher. Quand on est dans la guerre, la perspective apocalyptique et eschatologique concerne l'ensemble des acteurs sociaux, quel que soit leur degré de religiosité. Il me paraît en revanche significatif de rapporter à la population française les pertes humaines à Gaza, tout comme l'a fait avec les massacres du 7 octobre. On l'a fait avec les massacres du 7 octobre afin de se rendre compte des seuils de violence franchis. les morts israéliens du 7 octobre équivalent en proportion à 10 000 morts en France en une seule journée, un chiffre énorme. Avec 30 000 morts officiels et un nombre par définition inconnu de disparus à Gaza, sans même parler de la mortalité indirecte liée à la malnutrition et aux maladies, les pertes gazaouis en 5 mois sont équivalentes à la mort d'un million de personnes en France. Cela a-t-il un sens de différencier des guerres menées au nom de Dieu, d'où la politique serait exclue, et des guerres demeurant fondées sur des motifs territoriaux, stratégiques ou nationalistes? Autrement formulé, que peut-on faire face à des acteurs dont la volonté apocalyptique est un moteur, que ce soit du côté du Hamas ou de l'extrême droite israélienne? Et Stéphane Audouin répond « Je suis réticent à séparer ainsi les choses. Quand on est dans la guerre, la perspective apocalyptique et eschatologique concerne l'ensemble des acteurs sociaux, quel que soit leur degré de religiosité, dans la mesure où la guerre crée un temps différent, une attente, une forme de radicalité qui s'exprime le plus souvent en termes de tout ou rien. La guerre est souvent vécue comme un accomplissement, une parousie, une sorte de grande attente, justifiant tous les sacrifices. Pour beaucoup de Français de 1914-1918, une défaite aurait eu des conséquences civilisationnelles d'une telle ampleur que la nécessité de mener la guerre jusqu'au bout dépassait les considérations relevant du religieux. » C'est une formule, je pense, à laquelle il faut bien réfléchir, parce que ça indique très précisément ce qui peut se passer dans les prochains mois concernant l'Ukraine, cette fameuse spirale que plus personne ne maîtrise, et on se retrouve dans des situations de conflit généralisés. Alors, je reprends ce que dit Stéphane Audouin. Il est difficile de sentir cette dimension lorsqu'on est extérieur à la guerre, parce qu'on ne sait pas ce que signifie vivre dans un temps de guerre, un temps modifié dans lequel la dimension eschatologique prend une ampleur inégalée. Mediapart, et c'est la dernière question de Mediapart, demande « Comment regardez-vous l'inflation dans le débat public du terme « réarmement » pour parler économie ou démographie ?» Cette dimension incantatoire est passionnante. En dépit de l'intensification de la fabrication de canons César ou de munitions pour l'artillerie, le réarmement réel demeure très relatif en raison de goulets d'étranglement à plusieurs niveaux. Le président Macron, depuis le début du conflit en Ukraine, prépare l'opinion à une dégradation possible de la situation. Mais un réarmement véritable n'est possible ni industriellement, ni démographiquement, ni financièrement. Comme au moment du Covid, l'importation croissante du vocabulaire militaire dans le champ politique permet à peu de frais d'imaginer que l'on a prise sur le réel, alors que ce n'est pas le cas. Ce discours martial se veut sans doute performatif, mais je préfère me concentrer sur l'aveu étonnant du président de la République, ayant l'humilité de constater qu'on a souvent eu à 6 ou 12 mois de retard. N'est-ce pas une constatation inacceptable pour nous comme pour l'Ukraine ? Alors bien évidemment, au niveau de la libre-pensée, nous ne partageons pas forcément les conclusions qu'en tire Stéphane Audouin-Rousseau, hein, qui, je rappelle, n'est pas du tout un militant pacifiste, mais un historien du fait militaire. Mais les éléments qu'il donne dans l'entretien qu'il a eu avec Mediapart sont frappants, d'une part, avec la froideur avec laquelle il énonce un certain nombre de sujets liés aux faits militaires, que ce soit sur les opérations, que ce soit sur la question des morts, des blessés, etc., tout le dispositif. Mais l'indication est claire. Hein, l'indication, c'est bien que aujourd'hui, cette situation difficile sur le plan militaire de l'Ukraine doit nous amener à nous poser une question. Est-ce que l'on doit persister dans un positionnement de guerre, dans un positionnement de toujours plus d'armes, toujours plus de munitions, ou est-ce qu'il ne faut pas réfléchir, ou posons la question différemment, combien fera-t-il de milliers, de dizaines de milliers, de millions de morts pour qu'on arrive à se mettre autour d'une table, parce que les guerres se terminent toujours un jour et que c'est bien évidemment les belligérants qui se mettent autour d'une table. Et je crois que cette guerre a fait déjà assez de victimes. Hein, je parle de la guerre en Ukraine. Et que finalement, le mot d'ordre, que ce soit en Ukraine ou à Gaza, cessez le feu immédiat. Et menons des discussions qui permettent aux populations et aux populations civiles de vivre dans des situations de paix. La situation de guerre ne peut pas être une situation réellement de vie. Voilà. Donc j'en reste là pour aujourd'hui. Je vous propose d'écouter maintenant une chanson. Écoutez, je vous la laisse découvrir et on y reviendra après.
pourvu. Ouais.
On vous dirait qu'on serait prêt.
Ok. Ce soir je meurs à la guerre. Aujourd'hui pour moi sonne le glas. Mon visage est blanc et mon sang coule à flots sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes. Pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville sur le trottoir de la rue des Lilas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Quand se passent mes pas, jamais plus les cimes et la neige éternelle et l'oiseau bleu brillant de mille éclats. Plus jamais la lune dans la nuit qui éclaire mes pas. Jamais plus la mer, les étoiles, les forêts et ce lac bleu perdu au fond des bois. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas, la rue des Lilas, la rue des Lilas, mes frères, mes enfants, mes parents, mes amis, danser le dapquer pour repousser la mort, trinquer la raque jusqu'au bout de la vie. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour bercer mon départ jusqu'à l'autre bord, dire aux faiseurs de mort que l'on survit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. La guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacre pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas.
Voilà qui nous rappelle ce monument merveilleux, ce monument pacifiste de Jean Sioux, avec cet enfant qui est représenté en tenue d'écolier qui précisément dit « Maudite soit la guerre ». Nous en resterons là pour cette chronique. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller, donc lundi prochain, toujours sur Radio Libre en Périgord. Bonne semaine.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30.
Elle tient ton glaive.